10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
L'islam au présent, une heure pour parler d'islam, hein, le vendredi sur Beurre FM avec le retour de l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, ravi d'être avec toi.
Ah, je me suis arrêté parce que vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, vous avez toussé dans votre main.
Oui, mais je n'ai pas le coronavirus Philippe, je te promets, ça fait plus de 14 jours que je suis rentré d'Arabie Saoudite.
Moi, je vous aurais bien, confiné.
Il reste, voilà. Hein ? Tu veux aller te confiner ?
Non, oui.
Donc, c'est la paranoïa, là, on est.
Non, non, moi, je ne suis pas parano, contrairement à vous tous, je ne suis pas parano.
Bah non, puisque c'est toi qui viens de faire la...
Tout à l'heure, vous m'avez parlé d'un billet de banque, et je vous ai dit non, sauf... Mais là, vous avez fait ce que vous avez fait, vous avez toussé dans votre main. Alors qu'il faut tousser dans votre coude.
Non, ouais, vous avez raison. C'est vrai, là, c'est vrai. Je veux bien voilà. T'accorder ça.
Non, vous m'avez fait peur, là, dans les couloirs, mais...
Bon. Non, oui, ça va.
Justement, tiens, pour parler du coronavirus, il y a une information qui est confirmée ou pas sur l'Arabie Saoudite qui aurait fermé les lieux saints et qui aurait momentanément fermé ses frontières pour que les pèlerins ne viennent pas.
En fin de compte, ils ont fermé le guichet de l'attribution des visas. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus obtenir de visa. Pour ceux qui n'ont pas de visa, ils ne peuvent pas. Donc, bien sûr, si vous n'avez pas de visa, vous ne pouvez pas entrer sur le territoire saoudien. Mmh. Mais je pense qu'ils n'ont pas bloqué toutes les autres activités. Par exemple, si vous partez avec un visa d'affaires ou un visa commercial ou autre, ou visite, par exemple, ce qu'on appelle ziara, je pense que là, non, bien sûr.
Là on parle de pèlerinage. Hein. On parle du pèlerinage.
Oui, le pèlerinage. Alors, pour le pèlerinage, il existe deux visas. Il y a le visa Umrah, le visa fameux, visa spécifique pour faire la Umrah, mais aussi le visa tourisme. Avec un visa touriste aujourd'hui, équivalent à 3 mois pendant 1 an, donc c'est quand même une bonne chose qu'on fait les Saoudiens, c'est que vous pouvez à la fois sortir autant de fois que vous voulez du territoire saoudien et revenir pendant 1 an, mais avec une présence sur le territoire pendant maximum 3 mois. C'est un truc, ça c'est en dehors de la problématique du coronavirus. Mais c'est vrai que ces visas maintenant, eh bien ils sont fermés, vous allez au consulat saoudien, on ne délivre plus de visas de ce genre. Mais je pense que d'autres visas de personnalités du monde du business, je pense non, ils peuvent encore accéder là-bas.
Voilà,
Riyad, Jeddah, tout ça.
On répondra aux questions parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent quant au grand pèlerinage hein, qu'il faut préparer.
Oui, ça, c'est chaud parce que si le coronavirus persiste et perdure jusqu'à la période du grand Hajj qui réunit 3 millions de pèlerins, rendez-vous compte, si parmi eux, il suffit qu'il n'y en ait qu'un seul qui ait le virus et il va répandre à une vitesse grand V. Parce que là, je peux vous dire, franchement, la promiscuité. Et l'accolage, les accolements des gens les uns aux autres lors de la circumambulation, lors de la lapidation des stèles, lors des déplacements d'un secteur à l'autre dans les rues qui sont bondées de monde, je peux vous dire que là, ça va être un véritable carnage. Donc je ne sais pas comment vont réagir les autorités saoudiennes face à ce prochain grand pèlerinage. Est-ce que il aura lieu quand même, sachant que là, les agences commencent déjà.
C'est pour ça que je vous posais la question.
À réunir
les passeports,
les acomptes et tout ce qui vont avec pour réserver les billets d'avion et les hôtels dans les lieux sacrés. Oui, tout à fait. Il y a une incertitude. On ne sait pas qu'est-ce que ça va. Est-ce que l'Arabie Saoudite va tous purement et simplement dire, cette année, il n'y a pas de pèlerinage, comme ils l'ont fait. Il a fallu attendre Philippe en 421 après l'Égir. C'est-à-dire l'équivalent du début du 12e siècle, voilà, c'est ça à peu près, ou 11e siècle après Jésus-Christ, pendant quelques années, une vingtaine d'années environ, où il n'y avait plus de pèlerinage du fait parce que la Mecque avait été envahie par une tribu karmate qui massacrait tous les pèlerins qui venaient à la Mecque. Mais depuis cette date-là, la Mecque n'a jamais été au pèlerinage interdit aux fidèles. Si on le fait, ça sera la première fois. Ce sera une histoire, un moment historique pour les lieux saints de l'islam.
On commence par une citation d'Albert Camus, imam Abdelali.
Oui, comme toutes les semaines, on commence d'abord par une citation et qui est en rapport bien sûr avec notre sujet du jour, puisque notre sujet du jour concerne les cours d'eau. Donc on va commencer d'abord par dire la citation et puis on verra après pour ce qui est des cours d'eau. Alors qu'est-ce que dit Albert Camus ? Il dit « L'élève, comme la rivière aimerait suivre son cours tout en restant dans son lit. » Vous savez qu'une rivière, ça, on dit le lit de la rivière, c'est la terre sur laquelle se repose et ruisselle l'eau des rivières. et on parle de lit de rivière. Eh bien, effectivement, l'élève qui est obligé le matin de se réveiller n'a pas forcément envie de se réveiller, puisque nous, les jeunes, on a l'habitude de vouloir veiller le soir jusqu'à 2h30. On n'est pas des couches tôt pour être des lèves tôt. On est malheureusement, nous les jeunes, souvent, quand je dis nous, je parle des jeunes.
Hein. Oui, j'ai eu un moment de je vous ai regardé.
Je me suis mis encore dans la tête d'un jeune.
Ça me rassure.
Ouais, on aime dormir tard pour se réveiller tard. Donc là, effectivement, Albert Camus rappelle à ces jeunes-là que celui qui veut réussir dans la vie, qui veut arriver au bout et à terme de son parcours, eh bien, il faut sortir de son lit et non pas, comme le fait la rivière, rester dans son lit. Hein, effectivement, une rivière, si elle sort dans son lit, elle meurt. Alors que l'élève, lui, s'il veut réussir, il doit sortir de son lit pour réussir et aller travailler à l'école pour réussir. Donc je répète la citation, elle est jolie, de Albert Camus. L'élève, comme la rivière, aimerait suivre son cours tout en restant dans son lit. L'élève, comme la rivière, aimerait suivre son cours tout en restant dans son lit. Voilà, c'est joli, je trouve ça mignon, la comparaison métaphorique.
Elle est magnifique. Oui. Alors, Imam Abdelali, quand vous parlez des cours d'eau, de quoi parle-t-on ?
Alors, on sait que l'eau sur Terre subit un cycle. Vous savez qu'il y a une rotation. Alors, l'eau s'évapore de la mer, elle se transforme en nuages, elle est envoyée par les nuées, par les vents sur les terres, qui retombent en pluie. Et là, à partir de ce moment-là, il y a un cycle une partie de ce cycle de l'eau, où est-ce que l'eau est en minorité par rapport à la Terre ? Et est obligé de se faufiler au milieu des terres pour revenir vers la mer, pour revenir à son point initial qui est la mer. Et donc, ce faufilement de ces eaux-là en petite quantité par rapport à la mer, bien sûr, en comparaison avec la mer, eh bien, c'est ce qu'on appelle les cours d'eau. Alors, vous avez des petits cours d'eau, on peut parler de ruisseaux, de sources. On a des plus gros, tels que les rivières, on a des affluents, et on a jusqu'à avoir des fleuves, qu'on appelle en arabe al-nahr ou al-anhar au pluriel. Et donc effectivement,
alors justement, ces rivières et ces fleuves, comment sont-ils présents dans le récit coranique ?
Eh bien, ils sont présents de manière très significative, et notamment quand Dieu veut décrire l'abondance qu'il accorde à ses serviteurs, et notamment au paradis par exemple. Il ne cite jamais le paradis sans citer où coule, ou sous lequel coulent des fleuves, ou sous lequel coulent des rivières. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar, sous lequel coulent des fleuves. Et il va même citer dans le Coran des types de fleuves, des fleuves de miel, des fleuves de lait, des fleuves d'eau pure, des fleuves de vin. Hein, il y a même des fleuves de vin, Philippe. T'imagines au paradis, des fleuves où tu te jettes dans le vin, tu bois du vin. Mais sauf que ce vin n'enivre pas, nous dit le Coran. Il ne fait pas perdre la raison. Mais il a le même goût, voire même il a un goût meilleur que le vin que le Saint-Émilion, le meilleur de ce qu'on peut avoir sur Terre. Donc, effectivement, dans le Coran, Dieu aime citer l'eau comme étant une source d'abondance. Le Coran cite l'eau comme étant source de la vie. Il dit « Wa ja'alna min al-ma ikulla shay'in hayya » Nous avons fait de l'eau une source de vie. Et il dit aussi que l'eau est présent dans un certain nombre d'événements de la vie des prophètes. Alors, pour citer, j'en ai pris deux exemples, voire même trois, là, pour ne pas trop m'écarter. On va parler du premier. Alors, la question qui va se poser pour débuter ce premier récit, c'est quelle est l'armée qui a été éprouvée par un ennemi qui s'appelle l'alter ego, qui s'appelle les passions, avant d'affronter, c'est-à-dire qu'ils ont été obligés d'affronter leur alter ego, leur passion, leur envie, avant d'affronter l'ennemi. Hein, Philippe, je te pose la question. Connais-tu une armée qui a été obligée d'affronter...
L'armée de Pharaon.
Non, une armée musulmane, puisqu'elle affronte un ennemi non musulman. Une armée de croyants, on va dire ça comme ça, qui a été éprouvée et à combattre d'abord son alter ego, c'est-à-dire ses pulsions, ses envies, ses besoins, ses shahawat, on va dire.
Son fameux nefs,
avant d'affronter un ennemi physique, avec une armée réelle en face d'elle. Eh bien, c'est l'armée de Talot.
Alors là, j'étais pas prêt de trouver, je vous dis tout de suite.
Ah bon, alors là, Talot, là. Qui est Talot ? Talot, c'est en hébreu Saul, ou Saül.
Ah oui,
Saül.
C'est
le fameux prophète Saül. Alors qui est Talot, Salout, donc Saül en hébreu, c'est un homme que Dieu a fait don au peuple d'Israël afin de créer le premier royaume d'Israël. C'est lui qui a été le premier roi d'Israël. Et qu'au moment où est-ce que les Juifs, donc les Israélites, étaient un petit peu abandonnés et voient eux-mêmes, Dieu a envoyé un prophète pour leur dire, et c'était Samuel, qui leur a dit, Dieu vous a envoyé un roi, il vous a envoyé un roi. Et Dieu lui a accordé une taille, une force plus importante que la moyenne des gens. Donc il a une force augmentée, physique, et une connaissance plus importante que n'importe qui d'entre vous. Zadahu bastatan fil jismi wal ilm. Il avait un corps pour plus grand et plus robuste que n'importe quel d'entre vous. Et il avait une connaissance plus importante que n'importe qui d'entre vous. Et il dit ensuite, wa ayata mulkihi, et que parmi les signes de sa royauté, c'est qu'il viendra avec, je ne sais plus, dans un film, avec Indiana Jones, là, comment il s'appelle. Il y en a un où c'est les reliques de Moïse. Comment ça s'appelle ?
Alors, ça, c'est quoi ? C'est les aventuriers de
l'arche, voilà. Non, voilà, l'arche perdue, voilà. C'est le fameux arche perdue de Moïse. Où on dit en français l'arche, parce que moi, je cherchais le mot en français, l'arche perdue. Mais en arabe, on dit tabout. Ce fameux tabout, Dieu dit que dans ce tabout, il y a les reliques, les restes de ce qu'a légué Moïse et son frère Aaron au peuple d'Israël. Et donc lui venant et dit tahmiluhul malaika, et qui seront portés par des anges. Donc on verra ce tabou de cette arche perdue voler dans les airs sans qu'on voit en dessous qu'elle est portée par des créatures invisibles que sont les anges. Et donc effectivement, quand Talout se présente auprès de son peuple, il a derrière lui le tabout, l'arche perdue, ces fameuses reliques appartenant à Moïse qui auraient certains pouvoirs extraordinaires, qui dans l'histoire de justement de Diana Jones veut être récupérée par l'armée nazie. Mais bon, on mélange la fiction et la réalité, ou plutôt l'histoire des prophètes. Donc dans le Coran et même dans la Bible, hein, il est relaté que Saoul a été le premier roi d'Israël. Qui a eu dû affronter Goliath. Et dans son armée, il y avait un petit enfant qui s'appelait David, et qui naît à l'époque, non pas le roi d'Israël, David, le roi David, mais qui est un simple soldat, un enfant, qui, parce qu'il est courageux, parce que Dieu l'aime et parce que ça va devenir un prophète, il utilise sa fronde et tue d'un seul coup de pierre sur le front de Goliath, il tue Goliath. Donc c'est David qui tue Goliath. On dit tout le temps, quand un petit, un faible tue un grand, un puissant.
C'est David contre Goliath.
David contre Goliath, c'est en référence à cette histoire de David qui, je rappelle, est cité dans le Coran. Waqat ala Daoud ou Jalout. En arabe, il se fait appeler Jalout. Hein, donc c'est le fameux Goliath de l'hébreu. Et donc cette armée qui est dirigée par Talout, avant de rejoindre l'armée de Goliath, ils sont éprouvés. Talout reçoit l'ordre de Dieu de dire à son armée qu'ils vont bientôt arriver à une rivière, donc un point d'eau, c'est-à-dire une eau de source qui va couler, et il leur dit « Vous ne devrez pas toucher à cette eau », alors qu'ils étaient assoiffés. Ils avaient très très soif, ils avaient envie énormément de boire. Et donc il leur a dit « Celui qui boira de cette eau, ne fait pas partie de mon armée, ne fera pas partie de mes fidèles. Il sera rejeté, il sera maudit par Dieu et par moi. » Donc ça, c'est Talout qui parle à son armée. Et celui qui résiste et qui se retient et qui fait preuve de résistance contre son nefs et ne boit pas de seulement, il aura droit à une poignée de main. « Illa man irtarafa ghurfatan biyadih » dit Dieu dans le Coran. Dans le Coran, il dit « Illa man irtarafa ghurfatan biyadih » qui aura le droit de prendre une poignée de sa main et de boire de cette poignée de main, et c'est tout. Il n'aura pas le droit de se jeter dans l'eau et de boire jusqu'à se rassasier. Tous ceux-là qui font ça, eh bien, seront rejetés et ne pourront pas faire partie de l'armée de Talout, donc de Saoul, et ne pourront donc pas affronter l'armée de Goliath. Et effectivement, la plupart d'entre eux vont se jeter dans l'eau tellement ils auront soif, et une toute petite partie de l'armée de Talout va sortir de l'autre côté du fleuve sans avoir bu que seulement l'équivalent d'une poignée de main qu'ils auront trempé dans la rivière. Et donc, d'après les récits, d'après les historiens musulmans, cette armée de Talout ne sera composée à ce moment-là que seulement de 314 hommes, le même nombre que celui de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Badr, qui a donné la victoire aux musulmans. Et effectivement, ces deux batailles vont se comparer et Talut va vaincre Goliath grâce à David, bien sûr, grâce à Dieu, grâce à son armée, grâce au courage de ces quelques hommes qui ont résisté à ne pas se tenter par le diable et David qui va donner un coup à Goliath pour le tuer. Et donc, grâce à cela, il va pouvoir créer son royaume, qui est le royaume d'Israël.
Bon, on reprend ce récit dans un instant, Imam Abdelali. Je rappelle que vous pourrez poser vos questions dans un troisième temps au standard 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et l'imam Abdelali Mamoun qui est là aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de l'histoire de Talut, imam
Talut.
Talut. Quelle est la morale de cette histoire finalement?
Bah écoutez, la moralité c'est que quand Talut, qui est un prophète de Dieu, est là d'abord pour éduquer son peuple à promouvoir un cheminement spirituel, la première des choses qu'il leur apprend c'est de lutter contre le nefs, contre l'alter ego. Et que le pire des ennemis c'est d'abord l'alter ego. C'est le nefs que tu dois savoir domestiquer et contrôler. Et donc, il les éprouve. Et donc, il est en train de tester son peuple pour savoir qui parmi eux sont les hommes sincères, les vrais croyants de ceux qui ne sont des hypocrites. Et donc, c'est la vraie leçon que l'on reçoit de cette histoire et pas simplement le fait qu'une histoire dans laquelle le premier royaume ou le premier roi d'Israël était le roi Saoul, qui va être bien sûr succédé. Et donc, il y aura comme héritier David. Donc, c'est le roi David qui prendra le flambeau et qui va propager et agrandir le royaume d'Israël. Donc, effectivement, c'est d'abord la meilleure des leçons et la plus importante des leçons, c'est comment apprendre à combattre d'abord son vrai ennemi qui est le nefs.
Bien, je vous parlais de Pharaon tout à l'heure. Alors, on va revenir sur cette histoire de Pharaon.
Ah oui, effectivement. Alors, on va plutôt parler de Pharaon qui est un tortionnaire, un assassin, un criminel, qui, parce qu'il a reçu une prédiction. C'est-à-dire, c'est pas une prédiction. Prophétie, c'est pas une prophétie, mais un sorcier qui a réussi à connaître l'avenir.
C'est une prédiction.
Une prédiction, allez. Ouais. Une prédiction dans laquelle il voit la menace du royaume de Pharaon chez les enfants nouveau-nés de telle date, de telle période. Donc, il ordonne Pharaon de faire tuer tous les enfants nés à cette période-là. Et qu'est-ce que dit Dieu dans le Coran? Bien sûr, puisque parmi eux, il y a Moïse. Il y a celui qui va naître et qui va, ce qu'on appelle, mettre en péril et qui va même anéantir le peuple de le royaume de Pharaon, puisqu'il va mourir sous les flots de la mer Rouge, si on pense que c'est bien la mer Rouge dans laquelle le Pharaon a été englouti après que Moïse soit passé avec son peuple et traversé la mer, à sec, hein, qui s'est ouvert, qui s'est grand ouverte, voilà, selon le grand miracle de la Bible et du Coran. Eh bien, il fait ordonner de tuer tous les enfants. Et donc, qu'est-ce que Dieu dit à la mère de Moïse, puisqu'il parle à la mère de Moïse, et il lui dit وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي. Nous avons révélé, nous avons fait une prophétie à la mère de Moïse de l'allaiter. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْكَ. Si tu crains pour lui, jette-le dans le fleuve. Là, l'épreuve, c'est le fleuve encore une fois. Mais le fleuve, ce n'est pas de ne pas boire ou de boire comme Talut, mais de sacrifier son propre fils, sa chair, son nouveau-né, son bébé, de le jeter dans l'eau et de faire confiance à Dieu, et de s'en remettre à Dieu sur le sort et l'avenir de cet enfant. Donc effectivement, la mère de Moïse montre bien qu'elle est bien à l'origine de qualité et de vertu qu'elle va transmettre à son enfant, qui est le fait de s'en remettre à Dieu et d'avoir un lien intime avec Dieu. Elle jettera son enfant quand elle verra la porte de chez elle toquer. Elle va fuir sa maison et elle va jeter dans un panier son enfant dans les fleuves, dans les eaux, dans les flots du Nil. Et donc le Nil est bien un cours d'eau. C'est ce fameux cours d'eau qui est l'épreuve de la mère de Moïse sur lequel elle va jeter. Et elle dit, le Coran nous dit que nous allons l'envoyer vers son propre ennemi. Son propre ennemi qui est la femme de Pharaon. Bon, qui n'est pas l'ennemi de Moïse, mais qui est la demeure de Pharaon. Hein, qui est la maison où habite Pharaon. Et donc la mère de la femme de qui est à la fois la mère mais en même temps il y en a qui disent que c'est la fille et la femme de Pharaon puisque il pratiquait l'inceste avec là-bas avec abondance. Hein. Les pharaons se mariaient souvent avec leurs propres filles. Et c'est ce que nous racontent, du moins, les exégètes en matière de la femme. En parlant de cette femme qui était une femme pieuse et qui va rentrer au paradis et qui fait partie de ces femmes qui auront droit au paradis alors qu'ils étaient proches d'un tyran, ils étaient proches d'un mécréant, ils étaient proches d'un rebelle contre Dieu, alors que d'autres qui étaient des femmes qui étaient dans la fin de la sourate Tahrim, Allah Azza wa Jal évoque des deux catégories, deux femmes proches de prophètes saints et d'hommes bons qui vont en enfer et deux autres femmes proches d'hommes mauvais qui eux vont au paradis. Et donc, l'une d'entre elles, c'est Assia, la fameuse épouse de Pharaon, qui récupérera le landau, le fameux berceau, qui a flotté sur le Nil, jusqu'à arriver sur les bords du palais de Pharaon. Et c'est la fille, la femme de Pharaon qui va récupérer cet enfant. Et il va exiger de Pharaon de ne pas le tuer et de lui permettre d'être élevé pour en faire un enfant adoptif qui va grandir, mais qui malheureusement sera la cause du malheur de Pharaon, puisque c'est Moïse qui... Voilà, en gros, ces deux histoires qui sont en rapport avec des cours d'eau de la vie des prophètes, et il y en a plein d'autres. Il y a même des histoires qui ne sont même pas liées à des prophètes, où Dieu nous rappelle, par exemple, dans la sourate La Caverne, l'histoire de deux hommes qui étaient des frères. L'un d'entre eux avait été comblé des bienfaits de Dieu. Dieu lui avait fait don de deux grands jardins. Et on dit deux grands parce qu'ils étaient séparés par une grande rivière et qui arrosait et qui irriguait ses terres à lui et donnait, mashallah, beaucoup de biens. Mais lui n'avait pas dit mashallah. Falaoula idakhalta jannataka qulta mashallah. Au moins, si tu rentres dans tes jardins, lui dira son frère, et que tu dis mashallah, hein, la quwata illa billah, si moi tu me vois moins riche que toi avec moins de bienfaits de Dieu, peut-être qu'Allah va changer les choses et inverser les situations. Il lui dit, crains Dieu, sois reconnaissant, sois remerciant envers ton Créateur qui t'a comblé de ses bienfaits. Et là, il dira, non, Dieu n'a rien à voir dans tout cela. C'est moi, c'est grâce à moi que j'ai obtenu tout ça. C'est mon travail, c'est le fruit de mes efforts que j'ai acquis tout cela. Et Dieu n'a rien à voir dans tout ça. Et malheureusement, pour cette ingratitude, Dieu va anéantir. Va anéantir son jardin dans lequel il va même rendre aride l'eau, la rivière va s'assécher et il n'aura plus rien du tout et il n'aura que ses larmes pour se consoler. Et là encore une histoire qui est citée dans la sourate Al-Kahf pour nous rappeler à nous tous que quand Allah Azza wa Jalla nous fait un don, il ne faut pas oublier de le remercier. Il ne faut pas, surtout pas oublier de dire Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Louange à Dieu qui par ses bienfaits il nous comble de ses bienfaits, de ses bontés et de ses piétés. Donc, de ses vertus. Voilà, salihat, c'est les vertus. Et donc, à partir de là, cette histoire-là, encore une fois, dans laquelle il y a encore l'histoire d'un cours d'eau, eh bien, c'est encore une fois une morale où Dieu utilise l'eau des cours d'eau, de ces cours d'eau qu'il y a sur Terre, pour nous rappeler comment il est important de faire attention à cette eau que Dieu nous a fait don et de ne pas la souiller par la pollution, de prendre soin de cette eau. Hein, aujourd'hui, il est difficile pour un moufti, par exemple, d'autoriser un musulman d'aller faire ses ablutions au bord de la Seine, par exemple. Donc c'est compliqué. Donc voilà.
On en parlera tout à l'heure parce qu'il y a une question justement qui concerne ça. Est-ce que les cours d'eau, on a des cours d'eau qui finalement s'écoulent et un étang par exemple, parce que c'est considéré comme un cours d'eau?
Non. Quand on parle d'un cours d'eau, c'est l'eau qui coule.
Voilà, c'est l'eau qui coule.
Alors, la différence entre une rivière, un affluent et un fleuve, on le sait tous, on l'a tous étudié à l'école, c'est que les deux sont des cours d'eau. Certes, ils peuvent des fois avoir même la même taille. Un affluent peut être aussi grand qu'un fleuve. Mais la différence, c'est que le fleuve se jette dans la mer. Donc, c'est une eau douce qui va se confondre et se mélanger dans la mer, dans l'eau salée. Et parfois, Allah Azza wa Jalla, dans sa grande puissance, impose à l'eau salée de ne pas se mélanger à l'eau douce. Il le dit dans une sourate. Il dit Maraj al-Bahrain yaltaqiyan. Hein, il y a parfois des mers tout entières qui se rencontrent, mais jamais ne se mélangent, car il y a entre eux un barrage virtuel, un barrage dans lequel on n'arrive pas à assimiler comment tout cela peut se faire. « Baynahouma barzakhoun la yabriya » nous dit le Coran. « Baynahouma barzakhoun » il y a entre eux un mur spirituel qui empêche le mélange de ces deux eaux, l'une salée et l'autre douce, l'autre sans sel. Donc, effectivement, il n'a fi khalqihi shu'un, il y a dans cela des signes de la grandeur, de la puissance de Dieu que l'on doit méditer et pour justement augmenter notre foi par la méditation de sa création. C'est l'objet même du choix que nous avons fait en début d'année, c'est de parler de la création pour mieux la méditer et pour mieux comprendre la grandeur du Créateur qu'il y a derrière la complexité de sa création.
Alors, Imam Abdelali, vous répondrez aux questions de nos auditeurs dans un instant. Je vous rappelle le numéro du standard que vous pouvez composer dès maintenant. C'est le 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, et l'imam Abdelali Mamoun, tiens, on va prendre Merzaka qui est avec nous, qui nous appelle du Mans, visiblement. Merzaka, bonjour et bienvenue.
Ou Merzak. Oui, bonjour.
Ah, Merzaka.
Salam
alaikum.
Salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Salam alaikum, imam. J'ai une question, imam. Il y a longtemps que je cherche, il y a quelques mois que je cherche une réponse. Je suis un petit peu confuse dans ma situation. Je travaille donc dans le commerce. Donc je pratique ma religion, alhamdoulilah. Et dans le cas de mon commerce, je travaille avec quelqu'un de ma famille. Qui D'accord. la pratique, voilà, n'est
alors,
pas...
Alors, c'est qui, il est, qui il est quoi comme... C'est qui dans votre famille? Votre frère, alors, votre
soeur.
Père, votre...
Voilà, hein, c'est ma soeur.
Votre
soeur.
Soeur. D'accord, très bien.
Nous nous entendons très très bien, sauf sur la religion. Moi, je... Voilà.
Pourquoi la religion serait une source de divergence? Chacun va à son rythme.
Je ne sais pas, justement, je voudrais avoir une réponse. Comment lui faire comprendre que le fait d'apporter, comme on dit, rizq, vous parliez de rizq tout à l'heure, Rabbi rizq a fait kulchi, alhamdoulilah.
D'accord.
Mais il y a une chose qu'elle ne sait pas ou qu'elle ne veut pas, c'est remercier Allah de ce qu'il lui apporte.
D'accord. Vous le faites, vous?
Moi, je le fais.
D'accord. Chacun est responsable de ce qu'il est.
Je prie dans mon lieu de travail parce qu'elle est au courant. Mais il y a quelque temps, elle a apporté de l'alcool dans ce lieu.
D'accord.
Et j'ai une petite... Et depuis ça, j'ai...
Est-ce qu'elle vous a demandé d'en boire de cet alcool?
Non, jamais. D'accord. Jamais. Ça va. Donc, j'ai un autre endroit pour faire mes prières. Je ne suis pas en retard sur mes prières.
C'est un autre endroit parce que vous ne voulez pas vous mettre au même endroit où est stocké cet alcool.
Voilà.
C'est-à-dire
voilà.
Vous pensez que prier à côté d'un endroit où est stocké de l'alcool, la prière n'est pas valable, c'est ça?
Je pense qu'elle est valable.
Ça n'a rien à voir.
Pas très bien.
Ah, comment?
Je ne me sens pas très bien.
Oui, vous avez le droit psychologiquement et spirituellement de vous sentir mal à l'aise. Mais écoutez, la question c'est, êtes-vous responsable de ce qu'elle fait?
Non.
Dieu, dans le Coran, il dit « Wala taziru wa ziratun wizra ukhra ». Personne n'assume les péchés des autres et les actes des autres. « Wa an laysa lil insan illa masa'a ». Dieu ne tiendra compte du yawm al-qiyama que seulement de ce que vous avez fait, de ce que vous avez accompli. Vous avez un devoir de conseil, bien sûr, dans la sagesse et la gentillesse, hein, c'est important, de dire à votre sœur « Taqillah urti, inti rabbin bri alik l'khair, je te veux du bien ». Que ça attire le courroux de Dieu, la colère de Dieu, tout ça, et que c'est pas en faisant ça que tu vas gagner plus d'argent. Ouais, vous lui parlez gentiment, mais faut pas la harceler. Il faut pas que ça se transforme en scène de guerre dans votre lieu de travail. Vous travaillez et à la fin vous dites inni bari ummink. Moi, je m'innocente de ce que t'as fait. Si malgré elle persiste, elle dit moi je veux faire ça. Et à partir de là, puisqu'il y a une incompatibilité dans la manière de travailler avec votre sœur, eh ben, séparez-vous. Chacun travaille dans son coin.
Oui. Oui,
vous n'êtes pas marié avec elle, c'est votre sœur, d'accord. Vous avez un devoir de bienséance et de lien, de consolider des liens parentaux, puisqu'on appelle ça en arabe Silat al-Rahim, avec votre sœur, et d'en profiter à chaque fois pour essayer de lui faire passer un peu le message, de se rattacher un peu plus à Dieu, de ne pas oublier son statut de musulmane et que de ce fait elle a des devoirs, elle a des droits mais aussi des devoirs. Et donc, à partir de là, si elle n'écoute pas, si elle n'en tient pas compte, eh bien, vous serez comme des milliers de prophètes qui ont été démentis et qui ont subi, on va dire, un rejet de la part de leur peuple, et comme beaucoup de du'as, de prédicateurs, de ceux qui prêchent la bonne parole. Faut pas y voir quelque chose de... C'est la volonté de Dieu. Tu ne guideras pas qui tu aimes, mais c'est Dieu qui guide qui il veut. Ça, il faut l'admettre aussi,
d'accord,
ce verset.
Ça, je le sais, oui.
D'accord. Donc, à partir de là, « وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغُ الْمُبِينَ » Notre rôle, c'est de transmettre. Après, ne faut pas harceler, ni crier, ni vous énerver, dégrader la situation des relations qui peut aussi mettre en péril votre entreprise. Non. Vous gardez une relation bien avec votre sœur. Et si elle n'écoute pas, tant pis. Vous la laissez tranquille. Et si vous arrivez même à vous séparer pour que chacun fasse son business de son côté, bah faites-le. Dans la mesure du possible.
Oui, j'y ai pensé. Oui.
Inch'Allah. Est-ce que j'ai répondu à votre question ?
Vous m'avez...
Mais restez gentil et sage avec votre sœur.
C'est ce que j'essaie de faire, mais c'est devenu une confrontation.
Non, pas de confrontation, surtout pas.
Entre.
Mais oui, bisous, beaucoup de bisous, beaucoup de câlins à votre sœur. D'accord.
Merci.
Merci ma sœur, au revoir.
Merci,
au revoir ma sœur.
Merci Mirzaïka pour votre question. Djellali est avec nous. Djellali, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour Djellali.
Oui, voilà, j'ai une parole de vous appeler, ce serait pour... J'aurais une question pour l'imam, s'il vous plaît.
Marhaban, akhi.
Voilà, salam alaikum.
Wa alaikum.
Je voulais savoir... en fait, voilà, moi j'ai un travail en semaine, et je faisais de la livraison avec Deliveroo et Berla en week-end. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on livre des plats, et souvent dans ces plats-là, dans ces sacs-là plutôt, vous avez... Il y a de la viande. De la viande a pu être halal comme non halal.
Mm-hmm. Et vous pensez que livrer de la viande non halal, c'est pas halal, c'est ça ?
Est-ce que c'est haram ou pas ?
Non, c'est de la consommer qui est haram, pas de la porter. Moi, j'ai mon père, quand il était jeune, il me raconte, ils allaient chasser le sanglier, le halouf, et ils le portaient, ils le transportaient dans leur monture pour donner à bouffer aux chiens.
D'accord.
Transporter une viande non halal n'est pas interdite, c'est la consommer qui est interdite.
Voilà.
Est-ce que Galou la Koula, ils t'ont dit mange là ?
Non, pas du tout.
Eh ben, mal, là, c'est bon, fais ton travail, Khoya Allah, Issaël, Alik.
Voilà, parce que je sais que le port de l'alcool là, c'est complètement haram et tout ça. Par rapport à la viande, j'avais des doutes, justement.
Non, la viande, il n'y a pas de problème. L'alcool, effectivement, c'est assez délicat, puisqu'il y a un hadith qui vient interdire même de la transporter. Donc, sauf si on la transporte avec l'engin ou le camion du propriétaire. Ou de quand c'est pas votre camion,
c'est. Non, alors c'est des vélos, scooters.
Mais c'est votre scooter.
Ouais.
Non, votre scooter, vous ne pouvez pas mettre de l'alcool dessus, si c'est le vôtre.
Non, pas de l'alcool.
Moi, je vous ai dit, là, je vous réponds à une question qui est, est-ce que je peux transporter de l'alcool sur mon scooter? Je vous dis non. Est-ce que vous pouvez transporter des plats cuisinés non halal? Vous pouvez.
Même si c'est du porc.
Même si c'est du porc.
D'accord, mais c'est impeccable. Merci beaucoup.
Juste, vous ne pouvez pas la manger.
Non, la manger...
Allah,
Barakallah,
c'est cher. Barak.
Merci. Naïma est là. Naïma, bonjour et bienvenue.
Allô, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, même. Bonjour, Philippe.
Bonjour, Naïma.
Oui. Voilà, j'ai une question pour l'imam. À propos, ma nièce, elle était enceinte. Pendant un mois, elle avait une maladie, elle avait peur pour son bébé, donc elle pouvait pas faire le ramadan. Et là, je sais pas, est-ce qu'elle doit le rendre ou donner de l'argent?
Est-ce qu'elle a déjà fait quelque chose en la matière? Est-ce qu'elle a déjà jeûné ou donné des sadaqats? Qu'est-ce qu'elle a déjà fait?
Elle a donné des sadaqats 5 euros par jour.
Eh ben là, c'est bon. C'est bon.
C'est bon,
c'est bon. Elle rattrape pas, elle fait rien, ça y est. C'est le ramadan de l'année dernière qui a été compensé par une fidya, qu'on appelle la fidya. Eh bien, c'est bon, on tourne la page, on passe au ramadan suivant. Salam alaikum. C'est soit elle jeûne, soit elle paye la fidya, mais pas les deux. Les deux, c'est seulement si elle a volontairement, selon un avis en plus, c'est même pas majoritaire, c'est pas l'avis unanime des savants. C'est de faire subir la double peine à la fois de rattraper et de payer la fidya. C'est une personne qui a été indisposée ou qui a voyagé, qui a attendu jusqu'au ramadan suivant et n'a pas rattrapé son jeûne pendant un an, sans raison valable. Cela, certains savants, et notamment l'avis de Mona Aïcha, radiallahu anha, qui fait payer la qui fait subir la double peine. À la fois, il doit jeûner, rattraper son jeûne de l'année d'avant, plus payer la fidya. Ça, c'est s'il a laissé un an passer. Mais si c'est dans l'année qui suit le ramadan qu'il paye la fidya, parce qu'il ne peut pas jeûner, parce qu'elle est à l'allaitement ou parce qu'elle est enceinte, encore une fois, et donc jusqu'au ramadan suivant, elle ne pourra pas rattraper par le jeûne, elle n'a pas les moyens physiques de jeûner, à ce moment-là, elle s'acquitte par la fidya. Si par contre, elle peut jeûner, elle ne peut pas avoir le choix de donner la fidya. Elle doit jeûner. Dès qu'elle peut jeûner, elle jeûne. Est-ce que vous avez compris ? Ça veut dire que si moi je suis malade pendant le ramadan et qu'après le ramadan je guéris, je n'ai plus le choix de donner la fidya ou de jeûner. Je n'ai que le choix, je n'ai qu'un seul choix, c'est le fait de jeûner. Dans le Coran, il est dit « فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ » Celui qui est malade ou en voyage, donc il n'a pas jeûné des jours du ramadan, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ, il devra le rattraper à un jour ultérieur. Il n'a pas dit fidyato ta'am ou miskin. Non. Fidyato ta'am ou miskin, c'est celui qui ne peuvent pas. Wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyato ta'am ou miskin. Hein, qui ne peuvent pas le jeûner. D'accord ?
Oui, qui ne peuvent pas le jeûner.
La yutiquna la yatahammaluna as-siyam ha'ula'i yufdun. Ils payent la fidya. Mais qui donc ont une maladie, soit une maladie incurable, ou soit ils sont très vieux, ou soit ils allaitent, ou soit c'est une femme qui a été encore une fois enceinte, et donc sa grossesse l'empêche de jeûner, etc., etc. Donc, dans ce genre de situation, si elle sait qu'elle ne peut pas jeûner pour des raisons physiques jusqu'au ramadan suivant, là, elle paye la fidya. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous avez bien compris ?
Ça, c'est pour une femme enceinte. Par contre, c'est pour mon fils qui avait pris, en disant qu'il vient aussi pendant 6 jours, en ramadan, il a pas fait ramadan pendant 6 jours, il doit le rattraper.
Bah bien sûr, s'il est en bonne santé après le ramadan, il doit jeûner, il doit rattraper. Et il privilège les jours d'hiver où les journées sont courtes, pour que ça soit pas trop dur pour lui. Il va pas attendre jusqu'à que l'été arrive et que les journées soient trop longues. Il en profite maintenant que les journées sont encore courtes. Voilà, d'accord.
Voilà, Naïma. Allez, merci, ma sœur. Merci. Kamel, bonjour et bienvenue. Kamel.
Oui, bonjour.
Bonjour, Kamel.
Alors, ça m'a interpellé la question d'avant avec le chauffeur-livreur, parce qu'effectivement, je fais la même chose.
Oui.
Je suis chauffeur poids lourd.
Et vous n'allez pas me poser la même question ?
Non, pas du tout.
D'accord.
Pas du tout. Mais par contre, moi, j'allais carrément poser mes vacances là, pendant le mois de ramadan par rapport à l'alcool qu'on transporte dans certains palettes qu'on a.
Est-ce que c'est ton camion ?
Non,
c'est pas. Non, donc c'est pas toi le transporteur.
Oui, mais
le Coran interdit de transporter l'alcool, que toi tu transportes l'alcool. Mais si tu conduis un camion qui n'est pas ton camion et qu'il est donc le transporteur n'est pas toi, toi tu fais ton travail. Et Asaf Shadid, l'alcool fait partie mimma amma bihi al-balwa. Ce sont des choses qui aujourd'hui sont tellement répandues dans la société qu'il est difficile pour quelqu'un qui travaille et qui a envie de gagner sa vie à la sueur de son front de pouvoir en échapper, c'est compliqué. Donc anta ala kulli hal, fais ton travail, et puis si tu arrives à éviter de transporter ce genre de colis, bah fais-le, évite-le, si tu as les moyens de le faire. Je dis bien si tu as les moyens de le faire, mais madame nakala tastati, tu ne peux pas. Et que la nécessité fait loi, tu fais ton travail, khouya. Allah yesahel alik, wa rabbi yfarj alik, wa rabbi yghfir lana wa iyyak inshallah.
Amin, amin. Merci beaucoup, imam.
Wa stakthir min al-istighfar, multiplie le repentir.
Merci Kamel, on va à Toulouse. Naïma est avec nous. Naïma, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour. C'était pour intervenir sur les propos de votre invité par rapport au transport des marchandises non halal.
Oui. Alors.
Et donc à chaque fois que j'entends les vendredis se référer à des hadiths qui sont faussement attribués au prophète, je me dis il faut qu'on parle, il faut que les gens commencent à réagir par rapport à ça, parce que le halal et le haram, il est bien expliqué dans le Coran, et c'est pas possible de se référer exclusivement sur les hadiths qu'on ne connaît pas leur authenticité, que le prophète il les a pas authentifiés, il a pas tant caché dessus.
Non, vous donc, parlez des savants, ce sont les traditionnistes qui vont authentifier les paroles du prophète, pas le prophète lui-même.
Mais oui, le problème de l'islam, c'est les traditionnistes, c'est les imams, c'est les chouyours, en premier les chouyours de l'Azhar, parce que la charia qui ont fait depuis la dynastie abbasside et même avant, c'est la charia de l'homme. pas la charia islamique. Donc, moi, j'invite votre... j'ai rien contre lui, mais je l'invite à revoir un petit peu ses connaissances, parce que c'est son travail, donc à se référer au Coran.
Attendez, vous parlez de qui, là? De moi?
Je ne sais pas, vous êtes...
je suis l'imam Abdelali Mamoun, oui, d'accord.
Oui,
donc, c'est
oui,
à moi de me référer au hadith et au Coran.
Non, pas au hadith.
Pas au hadith, que au Coran.
C'est le problème de l'islam.
Ah, non, on ne doit pas écouter les hadiths.
Depuis tout le temps, c'est les hadiths qui ont fait tout.
Ah, moi, vous ne croyez pas aussi que je me réfère au Coran aussi, non? Un petit peu?
Écoutez, moi, je vous dis, je n'ai rien contre vous. Des fois, vous avez des propos qui sont corrects, pour moi, à mon avis, qui sont logiques. Mais à se dire des choses...
Donnez-moi un exemple de choses que j'aurais dit qui vous semblent incohérents et incompatibles avec ce que vous appelez la charia islamia.
Oui, il y en a plein.
Non, de ce que moi j'ai dit, pas de ce qu'ont dit les savants.
Oui, 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 je vais vous dire, là, à l'instant, j'ai entendu, j'ai pas écouté depuis le début, mais pour le transport routier, alors il peut transporter le porc et pas il peut transporter l'alcool. C'est illogique, c'est pas écrit dans le Coran. Dans le Coran, Dieu il nous demande de ne pas boire, de ne
non, pas non, 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 il ne dit pas de ne pas boire, madame, écoutez. Vous voulez qu'on reprend le verset?
Hein?
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ô vous les croyants, sachez que l'alcool, les jeux de hasard, la sorcellerie, l'azlam, et les ansab, c'est-à-dire les pierres suspendues que l'on utilisait comme des statues, hein, les statues, rijsun, une impureté des actions du diable, rijsun min amal fajtanibuhu, éloignez-vous-en. Donc le mot « éloignez-vous-en », ça n'est pas que ne pas boire, c'est autre chose que ne pas boire. « Ishtanibou », c'est pas que, ça n'est pas seulement pas boire, il faut aussi s'en éloigner. Donc c'est-à-dire être éloigné de tout rapport, ne pas boire, ne pas la vendre, ne pas la transporter, ne pas s'asseoir à la table du vin, etc., en principe.
Bon, en tout cas, Naïma, cette discussion est passionnante, on la poursuivra plus tard.
On peut se rappeler par téléphone, si elle veut, je peux laisser mes coordonnées.
Voilà, donnez votre numéro, Imam Abdelali.
06 29 25 35 00, 06 29 25 35 00. Je précise que j'organise, bien sûr, le grand pèlerinage cette année, le Hajj ila Baytillah al-Haram, que ceux qui sont intéressés pour faire le grand pèlerinage, bah, vous pouvez m'appeler donc au 06 29 25 35 00. C'est au mois de juillet cette année, hein, du 20 entre le 20 et le 22 juillet jusqu'à au 10 ou 12 août, inshallah, pour 3 semaines, inshallah ta'ala. Donc 06 29 25 35 00. J'organise aussi les Hajj par délégation. Ceux qui veulent faire le Hajj par délégation pour une personne décédée qui n'a jamais pu faire le Hajj, vous pouvez m'appeler, inshallah. Et j'organise, Inch'Allah, le Hajj pour la personne décédée ou très malade.
Bien. Et on vous retrouve demain matin, Imam Abdelali, dans Speak Uni, l'émission interreligieuse de Beurre FM. Et nous parlerons Inch'Allah de l'accouchement demain matin entre 10h et 11h.
Retrouvez l'islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.